Le 11 septembre 2001, bien, si les choses changent, c'est parce que soudain, cet événement, attentat criminel, bien entendu monstrueux, qu'aucune cause ne peut justifier, mais attentat, je dirais, doublement criminel. Criminel en raison du fait qu'il va provoquer immédiatement 3000 victimes, innocentes par définition, mais criminel parce que cet attentat va donner aux États-Unis, va donner à cette puissance, elle va lui donner une raison d'être puissante. Ce qu'elle n'avait plus depuis la disparition de l'Union soviétique. C'est-à-dire, va lui fournir soudain une justification à son énorme puissance. Voire même, va justifier le fait que cette puissance continue de se développer. Ce que, d'ailleurs, Bush a fait, comme vous savez, en augmentant de manière massive le budget de la défense cette année. Donc ça, c'est-à-dire, c'est pourquoi nous disons, cette administration des États-Unis a reçu, finalement, le 11 septembre, alors évidemment, avec beaucoup d'expressions pathétiques, mais au fond d'elle-même, cette administration a reçu cet attentat comme une aubaine. Cet attentat, si vous voulez, structurellement, ont fonctionné comme l'élément complémentaire dont avait besoin cette administration, l'administration de Faucon, l'administration de guerre, hein, et en fournissant l'argument dont avait besoin cette administration pour pouvoir dire nous avons maintenant ce qui leur manquait, c'est-à-dire un ennemi, un adversaire, hein, et cet adversaire, qui plus est un adversaire assez diffus, terrorisme international, personne ne sait ce que c'est le terrorisme international. Hein. Je veux dire, aucun expert, aucun savant, aucun en politique internationale, il n'y a aucune définition de terrorisme international. Hein. Évidemment, on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle forme de violence politique, et notamment celle qui assassine des innocents, ou que ce soit, hein, mais il n'existe pas, il en existe plusieurs, mais il n'en existe pas une sur laquelle il y ait unanimité sur le terrorisme international. Ce qui fait que cette administration, bien sûr, a pu se trouver dans des circonstances de laboratoire pour conduire une idéologie d'affrontement fondée sur l'idée que désormais, eh bien, les États-Unis allaient pouvoir faire usage de leur violence, allaient mettre un frein à tout ce qui était l'expansion de la démocratie, etc. Vous avez remarqué que depuis le 11 septembre, la question des droits de l'homme est quand même passée, Christian le disait tout à l'heure, est quand même passée au second plan. Et que le premier allié dont se sont dotés les États-Unis pour conduire la guerre d'Afghanistan, c'est quand même le Pakistan, qui est une dictature militaire. Le général Musharraf est quand même celui qui a renversé le président démocrate ou démocratiquement élu du Pakistan, Nawaz Sharif, qui l'a mis en prison, etc. Et un régime qui ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, pas plus que l'Irak, c'est-à-dire puisqu'il fait des essais nucléaires qui sont interdits, comme vous savez, par des conventions internationales, un pays qui s'est doté, contrairement à la volonté de la communauté internationale, d'armes atomiques, qui développe un programme balistique extrêmement périlleux pour ses voisins, notamment pour l'Inde, bien entendu, qui en fait autant, entre parenthèses, mais donc le Pakistan n'est pas plus fréquentable que l'Irak. Qui plus est, le Pakistan, c'était quand même l'État qui avait créé les talibans, qui les avait créés de toutes pièces, qui les avait dotés d'une idéologie, qui les avait dotés d'un armement, qui les avait encadrés par les officiers de l'armée pakistanaise, et par conséquent, l'Afghanistan, de fait, était un protectorat pakistanais. Hein. Et le Pakistan, avec un cynisme exceptionnel, a laissé son protectorat et s'est protégé à être détruit par les États-Unis, parce que, évidemment, ils sentaient bien que sinon c'était eux qui seraient détruits. Donc on voit bien dans ce choix que désormais les États-Unis ne font plus la fine bouche à l'heure de choisir leurs alliés. Hein. Et sur cette, disons, on a vu comment les libertés ont reculé tout au long de cette année, hein, comment les États-Unis se sont dotés d'un arsenal de lois permettant désormais de transformer chaque citoyen en suspect. Hein. C'est-à-dire que chaque citoyen maintenant doit démontrer qu'il n'est pas terroriste, et pour que l'administration accepte comme tel. C'est-à-dire, mais on ne part pas du principe que le citoyen est innocent. Globalement, c'est sur ce registre-là que se sont développés les, disons, les esprits, en tout cas, de l'administration, et on a eu cette monstruosité de Guantanamo, etc., qui est une sorte de limbe juridique. On ne sait pas sous quelle juridiction c'est placé, puisque même la juridiction militaire ne fonctionne pas, et on peut prendre des gens, on a mis également des talibans, le taliban c'est pas Al-Qaïda, etc. Le fait est qu'au bout d'un an, cette logique-là est une logique qui patine, hein, puisque dans l'ensemble, la guerre contre le terrorisme est un échec. Ils ont beau avoir à peu près 600 prisonniers à Guantanamo, il y en a très peu qui appartiennent à Al-Qaïda, la plupart sont des talibans, et des dirigeants importants d'Al-Qaïda, il y en a fort peu. Il y a un expert nord-américain qui a dit que sur les 27 chefs principaux d'Al-Qaïda, les États-Unis en ont 8. Donc il y en a 19 qui courent, dont certains en mobylette d'ailleurs. Et ils n'ont pas attrapé, enfin ils n'ont pas réussi à capturer Ben Laden, donc il y a un échec fondamental. Et alors que cette guerre n'est même pas terminée, et sans avoir établi un rapport entre le terrorisme international et l'Irak, voilà que le discours actuel de l'administration, c'est qu'il faut faire la guerre à l'Irak, et vous avez vu comment ce discours a pu très vite imprégner finalement l'ensemble des médias, devenir un sujet permanent sur lequel chacun réfléchit, et nous sommes maintenant... C'est vrai que l'anniversaire du 11 septembre, qui a relancé l'émotion, qui a rappelé évidemment la douleur, etc., a été un magnifique argument pour dire, bon, mais maintenant, il faut quand même éviter que ce genre de choses se produisent. Or, il y a là-bas un grand méchant, et donc c'est l'occasion de faire la guerre. Alors, bien sûr, Saddam Hussein, personne ne défendra son régime. Mais, en tout cas, si certains d'entre vous ont la gentillesse de lire Le Monde diplomatique, vous savez à quel point nous avons critiqué Saddam Hussein, même avant, quand il était l'ami, car Saddam Hussein, ça fait très longtemps qu'il est là, hein, et il fut un temps où il était un excellent ami des grandes puissances occidentales, dont la France, et c'était le champion, d'ailleurs, occidental, quand il faisait la guerre à l'Iran, qui était à l'époque le grand Satan, qu'il demeure, d'ailleurs, dans une certaine mesure, hein, puisqu'il est dans l'axe du mal, quand même, on ne l'a pas oublié, celui-là. Mais Saddam Hussein, il à l'époque, il avait été très utile pour arrêter l'expansionnisme de la révolution islamique de Khomeini. On sait aujourd'hui que si Saddam Hussein possède des armes bactériologiques et chimiques, c'est parce que les Américains les ont dotés de ces rudiments de technologie, ont développé cette technologie pour qu'ils puissent l'appliquer contre les Iraniens, ce que Saddam Hussein d'ailleurs a fait de manière criminelle, et il l'a utilisé également, comme vous savez, sur la population irakienne, en particulier contre les Kurdes. Bon. Donc, c'est évidemment un régime infréquentable. Hein. Mais les accusations que l'on porte contre Saddam Hussein, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les résolutions, qu'il possède des armes de destruction massive, et qu'il est une menace pour ses voisins, je viens de dire qu'on pourrait l'appliquer parfaitement au Pakistan. On ne va pas faire la guerre au Pakistan, c'est totalement absurde. On pourrait l'appliquer, bien entendu, à Israël. Israël possède l'arme nucléaire, ne respecte pas les résolutions des Nations Unies et est une menace pour ses voisins puisqu'il occupe des territoires étrangers. Bon, il serait complètement absurde, bien entendu, de demander le bombardement d'Israël. Ça n'a pas de sens. Nous pensons que Israël et ses voisins, et notamment les Palestiniens, doivent arriver à un accord de paix par la voie de la négociation.